Monsieur Christian Vénès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Rassemblement pour la France, vous êtes député honoraire de l'Assemblée nationale française, et nous allons parler aujourd'hui de la libre circulation telle que la connaît la France. Comment cela se passe-t-il pour la France?
Bon, la France est bien sûr intégrée à l'Union européenne et à l'espace Schengen, ce qui fait qu'il y a une libre circulation des personnes à l'intérieur des 27, et en plus pèse sur elles l'idéologie de la technocratie européenne qui impose un très grand laxisme en matière d'immigration et d'asile politique. On a eu l'occasion de s'en rendre compte il y a maintenant 2 ans lorsque Madame Reding s'est crue autorisée à critiquer la France lorsqu'elle s'opposait à l'immigration des Roms en provenance de Roumanie et de Bulgarie, pays qui n'étaient pas dans l'espace Schengen et qui n'avaient pas encore tous les droits qui sont réservés aux autres pays déjà membres.
Il y a un léger problème en Suisse, c'est que la coalition interpartie qui regroupe tous les partis suisses sauf l'Union démocratique du centre, qui défend cette initiative pour le retour à un contrôle de la libre circulation, cette coalition nous promet des sanctions extrêmement sévères, notamment l'interruption de discussions bilatérales avec l'Union européenne en cas de vote favorable à l'initiative. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que des sanctions tomberont sur le vote populaire?
Alors, je pense que l'idée de sanctions imposées par l'Europe est absolument scandaleuse. Elle est scandaleuse à 3 titres. Le premier, c'est que l'Europe est actuellement une instance qui n'est pas véritablement démocratique, qui est dominée par une technocratie et qui n'a évidemment pas à imposer aux différents pays dont les responsables sont élus démocratiquement, des sanctions qui sont absolument inacceptables. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui tient ô combien, en ce qui concerne la Suisse, à conserver sa souveraineté. Et enfin, je crois que lorsque l'Europe impose une libre circulation des personnes sans aucune restriction et même une idéologie immigrationniste, elle dépasse largement, au nom d'une idéologie non dite, les limites qui sont celles de la construction européenne. Je crois d'ailleurs qu'elle milite profondément pour qu'aujourd'hui un plus grand nombre d'Européens soient déçus par cette construction et la remettent en cause. C'est mon cas d'ailleurs.
Vous avez participé dernièrement à la manifestation Jour de colère. On a senti, enfin disons, on sent de plus en plus un raidissement de la part de la population française et en face, effectivement, un durcissement de la part du gouvernement. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Bah, il est très clair que beaucoup de Français aujourd'hui considèrent que le gouvernement actuel, le président de la République, ont perdu énormément de leur légitimité, ça a été dit d'ailleurs à l'Assemblée il y a peu de temps, dans la mesure où le mensonge a été utilisé pour se faire élire. On a fait croire aux Français que la crise n'était qu'anecdotique, que la croissance allait revenir, qu'il suffisait de saupoudrer le pays d'emplois financés par la dépense publique pour que les choses se rétablissent. Manifestement, au bout de 2 ans, on se rend compte que le remède a été un poison pour le pays qui est pratiquement l'un des seuls à ne pas améliorer ses résultats. Lorsqu'on voit les chiffres du chômage, notamment, je pense à ceux de l'Allemagne, bien sûr, mais même à ceux du Royaume-Uni, la France adopter une mauvaise politique. Donc les Français sont révoltés contre cette politique. De plus, les dirigeants accompagnent leur façon de gouverner d'un certain nombre de comportements moralement douteux, qui fait que une très grande aigreur se produit dans la population. Ceci s'est manifesté dimanche dernier, mais il n'est pas sûr que cette aigreur se manifeste uniquement à l'encontre des gouvernements d'aujourd'hui. Je crois que c'est plus grave que ça. Je pense que c'est tout le système qui est remis en cause. Et que notamment lorsqu'on regarde les sondages, si le Parti socialiste s'effondre, l'UMP ne remonte guère la pente, tout simplement parce que chacun a pris conscience du fait que les deux grands partis qui alternent au pouvoir en France partagent cet optimisme béant en ce qui concerne l'Europe et le mondialisme, qu'ils ne défendent pas les intérêts du pays, qu'ils compromettent la souveraineté du pays et qu'ils ne répondent pas enfin aux attentes sociales des Français. C'est la raison pour laquelle il y a une opposition qui se fait non pas tant contre le gouvernement que contre le système. Et je crois que la France n'est pas un cas particulier. D'une certaine manière, la votation suisse du 9 février, soutenue par un parti contre tous les autres, est également une démarche anti-système. Je crois que c'est l'Europe entière qui va être parcourue par cette évolution, par cette démarche, et que de ce point de vue-là, la Suisse, comme toujours, va être une sorte de modèle pour les autres pays. Peut-être que la Suisse va donner le signe d'un réveil des Européens contre la manière dont l'Europe évolue aujourd'hui.
Vous avez rendu plusieurs visites à la Suisse. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'une démocratie directe constituerait une forme de solution pour le peuple français ?
Alors, j'en suis tellement partisan que j'ai rédigé une proposition de loi instaurant en France une démocratie à la Suisse. C'est pratiquement une copie conforme avec simplement, vous vous doutez bien, une modification du nombre des pétitionnaires nécessaires à lancer une votation, dans la mesure où il y a évidemment à peu près 10 fois plus de Français que de Suisses. J'ai donc multiplié les chiffres par 10. Mais autrement, je suis tout à fait partisan de cette restauration ou de cette instauration de la démocratie. J'ai écrit beaucoup là-dessus. J'ai été l'auteur d'un amendement lors de la réforme constitutionnelle de 2008. Cet amendement a été voté, mais bon, on se retrouve aujourd'hui avec une application de la réforme qui est complètement hypocrite, puisqu'il faudrait 4,5 millions de Français pour que simplement on pose la question de savoir si véritablement il y aura une votation. Autrement dit, les Français sont privés de démocratie. Ils sont privés de démocratie parce qu'ils ne peuvent pas participer à des référendums. La liberté de s'exprimer, de penser tout simplement est en recul total en France. Je pense que la Suisse, de ce point de vue-là, offre un modèle qu'il faut suivre.
L'une des grandes menaces de la part des opposants à l'initiative sur la libre circulation, c'est la vengeance de Bruxelles. Est-ce que vous pensez que le peuple suisse, est-ce que vous pensez que la démocratie directe doit craindre un retour de bâton de la part de l'Union européenne ?
Encore une fois, ce retour du bâton est absolument scandaleux. Il est tout à fait illégitime. Un peuple est souverain. Ce n'est pas parce que l'Europe a quitté cette philosophie démocratique, c'est pas parce que l'Europe est devenue une technocratie qui méprise le peuple que la Suisse doit se soumettre à l'évolution idéologique. Maintenant, je crois que la Suisse est un pays suffisamment dynamique, suffisamment bien organisé et suffisamment riche, il faut bien le dire, pour ne rien craindre de l'Europe. Vous savez, ce sont plutôt les voisins de la Suisse qui ont besoin de la Suisse que la Suisse n'en a besoin. Je pense notamment aux frontaliers qui souhaitent que, en revanche, ils puissent toujours conserver la possibilité d'un travail en Suisse. Je crois que la Suisse ne va pas fermer ses frontières de toute manière. Elle va simplement retrouver sa souveraineté dans ce domaine. Elle va retrouver des contingentements, mais personnellement, j'y suis favorable pour la France. J'estime que, comme c'était d'ailleurs prévu sous Sarkozy dans la notion d'immigration choisie, il est tout à fait normal que l'immigration soit fondée sur le travail et que, à partir de cette idée, on puisse fixer des contingents en fonction d'une part des pays d'origine et en fonction d'autre part des secteurs d'activité de destination. Il y a certains secteurs où, bien sûr, il n'y aura pas suffisamment de citoyens suisses pour occuper les places. Donc, il faudra toujours de l'immigration. Il faudra toujours des frontaliers qui viendront travailler. Mais cela étant, il n'est pas nécessaire non plus d'imposer à la Suisse qu'il y ait trop d'étrangers qui puissent venir et produire des dépenses sociales disproportionnées. Je pense que c'est 43% des dépenses sociales suisses qui sont aujourd'hui le fait des étrangers. C'est 70% des actes de délinquance. Nous avons des problèmes assez analogues également en France, encore une fois, que les Suisses reprennent leur souveraineté. Je ne vois rien de critiquable à cela. Maintenant, je crois que les rapports entre la Suisse et les pays voisins sont tels qu'il y a toujours possibilité de s'entendre en ce qui concerne des sujets très particuliers, comme notamment ceux des frontaliers, bien sûr.
Vous me disiez vivre vous-même dans une région frontalière. Vous avez observé des changements ces dernières décennies dans les comportements migratoires ?
Ah, c'est tout à fait considérable. Lorsque je me remémore mon enfance, je me souviens des dizaines d'autocars qui venaient plusieurs fois par jour apporter les différentes équipes de travail dans les usines de ma ville de Tourcoing. Et ces autocars étaient chargés de travailleurs flamands qui franchissaient la frontière pour venir travailler en France. C'est exactement l'inverse maintenant. Il y a 20 000 habitants de la métropole de Lille qui vont travailler en Belgique, et notamment, comme vous le savez, la Belgique est divisée en trois, mais en fait en deux, les Wallons et les Flamands. Bon, en Wallonie, il y a un très fort taux de chômage. En Flandre, en revanche, il y a un taux de chômage à la Suisse, hein, c'est un taux de chômage, je pense que les Suisses sont situés à 3% pour les citoyens helvétiques et à 6% pour les étrangers. Les Flamands, ça doit être 5%, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, il y a beaucoup de places disponibles dans les usines flamandes, et beaucoup de Français vont y travailler, et ils en ont besoin. Donc, sur ces questions-là, il faut, je pense, qu'il y ait des échanges profitables aux deux parties, c'est-à-dire dans la mesure où le fait qu'il y ait des frontaliers n'entraîne pas du chômage dans le pays d'accueil, qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale, en quelque sorte, entre les frontaliers et les habitants. Mais encore une fois, le taux de chômage suisse à 3% me fait penser que ça n'est pas le cas. Et il faut aussi stimuler les pays qui bénéficient de ce régime frontalier pour faire en sorte qu'ils offrent eux-mêmes des postes de travail à l'intérieur de leurs frontières. Vous savez, il y a quelques années, la France était déficitaire sur l'ensemble de ses frontières avant la crise. C'est-à-dire y compris sur l'Italie et sur l'Espagne. Il y avait, je me souviens, j'avais fait des études il y a de ça 6 ou 7 ans, il y avait déjà 600 000 Français qui travaillaient de l'autre côté de la frontière. Autrement dit, un déficit généralisé qui est dû au fait que la France cache ses mauvais résultats économiques et sa très très mauvaise gouvernance, aussi bien par la droite que par la gauche d'ailleurs, par une dépense publique insensée, hein, 57% du PIB en dépense publique, c'est-à-dire le même niveau que le Danemark, et plus que la Suède aujourd'hui, bien plus que la Suède, avec un taux de chômage élevé pour une population au travail relativement faible, puisque si l'on tient compte du fait que les gens arrivent tard sur le marché du travail, le quitte tôt avec une retraite prématurée, et qu'ensuite il y a énormément de fonctionnaires, vous vous rendez compte que la France a ce double déficit d'avoir une grande partie de ses travailleurs qui en fait appartiennent au secteur public, c'est 1 sur 4 contre 1 sur 7 en Europe en général, et que d'autre part, sur le reste de la population active donc du secteur privé, il y a un taux de chômage tout à fait effarant. Les Français n'ont pas suffisamment conscience du fait que ces chiffres, c'est vraiment les clouent au pilori, ou clouent plus exactement leurs gouvernants au pilori. Nous sommes la plus mauvaise gouvernance d'Europe, et nous avons les moyens de le cacher, en raison du niveau de la dépense publique, du niveau de l'endettement qui croît d'année en année, et puis d'une bonne réputation à l'international, dans la mesure où nous sommes encore une des 5 ou 6 plus grandes puissances du monde.
Et vous pensez qu'il y a un moyen que ça change, enfin avec le président que vous avez actuellement, est-ce que ça va s'améliorer ?
Avec le président que nous avons, absolument pas. Je pense que nous avons actuellement un président qui véritablement n'était pas fait pour cette fonction, qui n'a même pas conscience des obligations auxquelles il est soumis. Son comportement particulier, privé, comme il dit, de ces derniers temps, montre qu'il n'a aucune espèce de conscience de l'importance de la fonction qu'il occupe. On a connu en France une sorte de décadence, depuis le général de Gaulle jusqu'à Hollande, qui est perturbante, vraiment, pour ce pays. Alors, si vous voulez, la Suisse ne peut pas avoir ce genre de problème parce que la direction est collégiale. Il n'y a pas véritablement de chef. Chez nous, il reste, qu'on le veuille ou non, cette idée monarchique du président qui est le détenteur de pouvoirs tout à fait considérables, dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple. Bon. Et par là même, lorsque cette personne ne se rend pas compte du pouvoir qu'elle a, et deuxièmement, dans ses décisions politiques, fait preuve d'une incompétence totale, vraiment, il faut qu'il s'en aille le plus vite possible, quoi. C'est un homme qui est une catastrophe. L'ennui, c'est que ses prédécesseurs n'ont guère été brillants, hein. Ils ne sont bons que par comparaison avec lui. Mais même Sarkozy a fait une politique qui était peu responsable. Vous savez, personnellement, j'étais très engagé dans la défense de la TVA sociale, c'est-à-dire du système là, non pas suisse mais scandinave, qui a sauvé à la fois la Suède et le Danemark, hein. Qu'est-ce qui finance leur protection sociale assez forte? C'est essentiellement la TVA sociale, c'est une TVA à 25%. Seulement, ça date de 88. La France n'a jamais eu le courage, ou plus exactement, les dirigeants français n'ont jamais eu le courage de mettre cette mesure en place. Donc Sarkozy a fait toute une série de déclarations, d'annonces de réformes, dont très peu ont été mises en œuvre, notamment celle sur l'immigration, qui a été un grand coup d'épée dans l'eau lorsqu'il a dit « immigration choisir, merveilleux, on va fonder l'immigration sur le travail ». Et on va donc limiter la contingenté. Oui, à part que l'immigration sur le travail est beaucoup moins importante que l'immigration par regroupement familial et que celle-ci est essentiellement une immigration de personnes assistées et non pas de travailleurs. Autrement dit, une immigration de gens qui en ont peut-être besoin, mais dont la France n'a pas véritablement besoin. C'est un non-sens total et je pourrais multiplier les exemples de la politique qui a été menée. Chirac, auparavant, n'avait strictement rien fait. C'était un honorable radical socialiste camouflé en gaulliste qui a choisi l'immobilisme. Bon, autrement dit, vraiment, la France est mal partie. Il faudrait un sursaut. Et je pense qu'effectivement, ce sursaut ne peut venir que de ceux qui ont organisé la manifestation de dimanche dernier. Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils se structurent, il faut qu'ils pèsent davantage dans la vie nationale, parce que sinon la France est dans une impasse.
Christian Van Est, président du Rassemblement pour la France, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions des observateurs.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.